Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot, Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télévision sur RMC Sport News. L'after, la seule émission en direct 7 jours sur 7 à la radio comme à la télé. Casting du soir, bonsoir Jonathan McCarthy.
Salut les amis.
Salut Ludovic Obraniak.
Salut à tous.
Pas de pub à l'antenne, Jonathan pour l'instant. Et un invité exceptionnel ce soir. Parce qu'il aime le foot, mais aussi parce qu'il aime la boxe. Bonsoir, coach Courbis.
Salut à tous.
Le retour putain, il y a Michael Buffer.
Le retour de coach dans l'after, bien sûr. Oui, car ce soir, c'est un after de 2 heures, bien sûr. On va débriefer la Ligue 1, les victoires de Nice, de Monaco, de Rennes. Tout le monde remonte au classement et se relance dans la lutte au podium. La victoire de Montpellier, de Paris à Montpellier. Les 3-4 drôles dames ce soir. Beaucoup de choses à vous raconter, notamment en Allemagne. La défaite du Bayern, celle, la victoire du Borussia Mönchengladbach. Et puis également le Real avec Benzema buteur, le Barça un but exceptionnel de Luis Suarez, le match est en cours face à Majorque, le Barça domine largement les Mallorquins et bien sûr l'Italie, Juve, Lazio, ou plutôt Lazio Juve, grande soirée mais aussi et surtout peut-être qu'on peut mettre le son déjà, un énorme combat de boxe. Oui, il y aura un petit after box quand même ce soir parce que vous allez vivre la grande revanche, un des combats les plus attendus de la décennie chez les poids lourds. Entre Ruiz et Joshua. Ruiz.
Qu'on va suivre assidûment quand même.
Assidûment.
Assidûment.
Ça reste une émission de foot, hein, Ludo.
On est quand même loin du vrai combat qui est attendu, la revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder.
Attends, pour le coup
c'est
là.
C'est quand même bien, hein.
Ouais, sincèrement, là, c'est très attendu. Ça se passe en Arabie Saoudite. Et ça, le combat sera dans une trentaine de minutes entre le Britannique Anthony Joshua, terrassé il y a 6 mois au Madison Square Garden par un petit américano-mexicain. Qui fait 10 cm de moins, 40 kilos de plus, j'exagère un peu, et qui va essayer de battre pour la deuxième fois celui que beaucoup considéraient comme le meilleur boxeur actuel chez les poids lourds.
Mais beaucoup, c'est qui beaucoup ?
Il y a débat.
C'est qui
avant qu'il tombe à New York.
C'est les gens bêtes en fait.
Oh là là, mon Dieu. C'est pour lui, le monde se divise en deux catégories, les bêtes et les intelligents. C'est plus nuancé que ça la vie, Jonathan McCarthy, ouais, tu sais.
De la considérer.
Et coach, tu voulais rester là avec nous pour ce combat aussi, c'est ça, coach ?
Ah bah oui, je veux voir que curiosité, si un miracle peut se passer une deuxième fois.
Peut se reproduire, à savoir Ruiz qui la battrait une nouvelle fois. Anthony Joshua. D'abord, messieurs, le programme et le décor est planté. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Je rappelle, 16 buts ce soir en Ligue 1, en l'espace de 4 matchs. 20 avec la victoire du PSG en fin d'après-midi. Je rappelle que Paris a battu Montpellier 3-1. Strasbourg a battu Toulouse 4-2. Nice a battu Metz 4-1. Monaco a battu Amiens 3-0. Et Rennes a battu Angers 2-1. Jonathan, tes 3 points.
Le premier point, c'est sur l'AS Monaco qui, mine de rien, se replace plus que bien au classement après un début de saison cataclysmique. Alors, il profite du championnat qui ultra resserré, mais c'est une équipe qui je trouve est en progrès, qui certes dépend extrêmement de la puissance de feu de Ben Yedder, mais qui progresse de match en match. Le deuxième point, c'est sur la victoire de Strasbourg qui reste une équipe irrégulière mais spectaculaire, et j'attends de voir Strasbourg avec une condition physique optimale en janvier. Troisième point, Paris Saint-Germain qui bat Montpellier. Écoute, je pense que le score n'est pas révélateur de la physionomie du match. Le dernier quart d'heure efface un petit peu tout, mais encore une fois un pari totalement inconstant.
Ludo,
si c'est pour revenir sur le match de Paris, je dirais séduit mais pas dupe, parce que le talent et le génie bien sûr me touchent particulièrement. Après, je suis pas dupe sur l'apport, justement la place de ces individualités, de ce génie dans le collectif. Je suis très inquiet sur la puissance collective du Paris Saint-Germain. Mon deuxième point, c'est la course au maintien qui commence à se dessiner. Strasbourg est 15e ce soir avec 21 points. Derrière, l'écart commence à se creuser.
Ça y est, hein.
Bon.
Les A, les 5
qui sont en grande difficulté. Et mon troisième point, c'est Nice, le retour des hommes du milieu. avec Lesmelou et Cyprien qui, quand ils sont dans une forme un peu plus adéquate, rayonnent un petit peu plus sur le bilan des derniers matchs de l'OGC Nice.
T'as raison, le trou est fait avec 5 équipes au classement bas de tableau. Là, ça va être dur pour Dijon, 16e, Amiens, 17e, Metz, 18e, Nîmes et Toulouse, 19e et 20e. A priori, attention, n'allons pas trop vite quand même, ça pourrait jouer le maintien entre ces 5 équipes de bas de tableau de Ligue 1. Voilà, pour les 3 points, on va développer ça ensemble pendant 2 heures. Je vous le disais, les drôles de dames, ce sera à partir de 23h. On va commencer par la victoire de Monaco. Justement, Jonathan, c'était un de tes points. Monaco est la soirée parfaite, hein. La force de frappe offensive, on la connaît. Et même sans Slimani, ils en collent 3. Et surtout, clean sheet ce soir, 3-0.
Mais c'est ça, écoute, alors, est-ce qu'on se serait dit, après le début de saison catastrophique de l'ASM, que, allez, en décembre, il serait potentiellement
entrer dans le top 10. Pour ça y est, première fois depuis le début de la saison.
Parce que, rappelle-nous, c'est 4 points avec le podium, c'est ça?
4 points. Monaco 9e, 24 points. Lille 3e, 28 points.
Bon, à 4 points du
avec
podium.
Avec un match de retard.
Roland,
t'as raison en plus. Donc, avec la surface financière de l'AS Monaco, avec ce qui peut se passer au mercato d'hiver.
Monaco PSG.
Avec la dynamique de l'équipe que je trouve est en progrès, c'est inespéré, c'est inattendu. Comme quoi, fallait pas forcément tout jeter. C'est une équipe qui est remplie de talent, alors qui certes est, ça ressemble à un bordel sans nom, hein, quand tu vois la composition de l'effectif. Mais il y a de quoi quand même faire un vrai candidat sur le podium. Et c'est en toute logique que l'AS Monaco va revenir en deuxième partie de saison pour jouer la Ligue des Champions.
Ça y est.
Ils vont jouer le podium pour moi.
Il y a 3 semaines, t'en étais pas là du tout. Hein.
Ils vont jouer pour. Mais c'est le charme du championnat de cette année. C'est que tu fais une série de victoires, de 2-3 victoires d'affilée, et tout de suite, tu redeviens un candidat. Là, quand je vois le potentiel offensif de Monaco, les progrès qui sont faits derrière, même si c'est pas encore ça.
Maripane qui marque ce soir.
Maripane, c'est pas ça qu'on attend. Mais c'est toujours son frère, Maripane. Hein. Par rapport au joueur qu'on voit avec le Chili et le joueur qui joue à Monaco, c'est toujours son frère, mais il est en progrès. Et surtout, quand on prend en considération qu'en janvier, il y a un mercato hivernal avec la surface financière de l'AS Monaco, tu peux te dire que Monaco, oui, sera un candidat au podium.
Coach.
Mais quand tu disais justement qu'il y avait des équipes qui se dégageaient en ce qui concerne le bas du classement, je crois que finalement, même si notre niveau en France est critiqué, par moments il est critiquable, je trouve quand même passionnant. En ce qui concerne ce fameux podium, ben je vois moi 6 à 7 équipes capables d'y être sur ce podium.
Et ah vas-y, on peut y aller.
6 à 7 équipes minimum. Ben,
Marseille, Lille, Rennes.
Celles que tu vois, ils y sont.
Bordeaux aussi?
Ben oui.
Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Monaco.
Ben oui.
Pas Angers et Nantes.
Ben,
pas en dessous.
Non, sincèrement ouais. Non, je les vois mieux au tableau.
Voilà.
Et en ce qui concerne après le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain arrive malgré tout en étant moyen à gagner ses matchs. Parce que le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, mais c'est sûr que ça reflète pas un petit peu ce qu'on a pu voir pendant une heure du match.
L'expulsion de Mendes.
Ouais, absolument. Et en ce qui concerne le dernier match contre Nantes, il a été gagné celui-là aussi. Mais je me disais, tiens, du côté de Marseille, on va peut-être avoir des regrets de ne pas avoir joué le match avec une chance de leur poser au moins des problèmes. On leur a même pas posé l'ombre d'un problème.
Ludo, le bilan est beaucoup moins séduisant en ce qui me concerne sur l'AS Monaco. Alors certes, ce soir,
pas de podium forcément pour toi.
Non.
T'y crois toujours pas.
J'y crois pas. J'y crois toujours pas. Certes, ce soir, ils gagnent 3-0 avec de la facilité, mais il a fallu attendre le but de Wissam Ben Yedder sur un cafouillage et sur sa capacité, notamment en bon joueur de futsal qu'il est, de se retourner très vite dans la surface de réparation pour débloquer un match qui était très compliqué déjà. Je cite quand même les derniers résultats de l'AS Monaco. Donc 3-0 contre Amiens, qui est dans une panade terrible.
Et 14 buts encaissés, on en parle.
Toulouse, n'en parlons pas.
6 défaites consécutives.
C'est porte ouverte.
Oui, t'as raison, relativiser.
Par contre, tu vas jouer à Bordeaux, tu perds 2-1. Tu gagnes chez toi 1-0 contre Dijon, et encore.
Ouais.
Et t'as perdu à Saint-Etienne.
Ouais.
Voilà, je dis juste ça.
T'as raison,
je dis qu'avec
tu joues les 5 derniers du classement.
L'effectif, en tout cas les noms qui sont dans ce groupe et la qualité des joueurs, Je trouve pas du tout que Jardim me fait un travail dingue.
Voilà. C'est pas en contradiction à ce qu'on a dit. Moi, j'ai pas dit que Monaco était une équipe qui jouait bien. J'ai pas dit que Monaco était une équipe séduisante de Ligue 1. Tu dis juste que dans le contexte de cette année, même si c'est toujours un petit peu, voilà.
Mais attends,
même si c'est pas toujours indiscutable.
C'est un moindre mal.
Vu l'effectif que t'as. Pense quand même qu'ils vont jouer le podium. Et je te dis pas, ça veut pas dire que Monaco a une équipe de qualité. Je te dis juste que par rapport au contexte, par rapport à comment ça se passe, par rapport à la structure du championnat de cette année, ça m'étonnerait pas qu'ils soient en course jusqu'au bout.
Si Monaco ne se renforce pas derrière, Monaco ne jouera pas le podium.
Tu sais qu'ils vont prendre cet hiver. Ils vont acheter des joueurs. Tu le sais bien.
Je suis pas certain, moi. Il y en a déjà tellement.
J'ai Pavlovic qui va arriver à 18 ans.
Mais ils ont tendance à dégainer le carnet de chèques assez facilement.
D'ailleurs, on peut jouer ce soir. Là, on est à plus du tiers du championnat désormais. On est quasiment à la moitié du championnat. 17 journées. Qui fait podium?
Moi, je te dis.
Qui accompagne le PSG sur le podium?
Paris, Marseille, Montpellier.
Paris, Marseille, Montpellier, troisième de Ligue 1, coach. Toi, tu vois qui, là?
Logiquement, Paris, Marseille, Lyon.
Et Lyon, voilà, la logique respectée.
Et Montpellier, pourquoi pas, quatrième.
Lyon qui a une fâcheuse tendance à très bien finir ses saisons, en général.
Ça aussi, ouais.
Ludo?
Paris, Marseille, Saint-Etienne.
Saint-Etienne!
Ah ouais, avec Claude Puel, ouais.
D'accord.
Donc, c'est plausible aussi.
Attention à Rennes également. On va tout de suite faire une.
Ah putain, on aurait pu faire un truc, j'ai oublié.
Vas-y.
Je voulais taquiner un peu Daniel dans les trois points.
Riolo ?
Ouais. J'aurais pu mettre le retour du génie breton.
Ah
oui.
Julien Stéphan.
Eh oui.
Trois victoires consécutives.
Un match de retard. Sinon.
Et un match de. Mais tout le monde. Enfin, il y a combien d'équipes qui ont des matchs de retard ? Monaco, Saint-Etienne pour l'instant.
Ouais, mais Rennes, un match de retard contre Nîmes.
Pour être très clair, si Rennes gagne son match de retard contre Nîmes, Rennes aura 30 points et sera troisième de Ligue 1. Si Monaco gagne son match de retard contre le PSG, le 15 janvier, ces matchs-là, hein, Monaco sera quatrième de Ligue 1. Tu vois l'histoire?
Ouais, c'est dingue. C'est le PSG, hein, quand même.
Ça va très très vite. C'est le PSG, quand même. Et tu sais, Monaco avec sa force de frappe offensive. Appelez-nous, hein, supporter monégasque au 32-16, hashtag RMC Live ouvert, bien sûr. Jonathan?
Sur ce match, on va revenir sur le match de Monaco. Moi, j'aimerais revenir sur Amiens. Amiens, en fait, ils sont dans une situation, et j'en parlais, je l'embrasse avec Jean-Marc de la Maison du Whisky, un long débat sur l'équipe d'Amiens. Amiens, ils sont dans une situation un petit peu compliquée avec Lucas Elsner, ce qui est typiquement représentatif de ce qui peut se passer avec ce genre d'entraîneur. Quand tu regardes le match, je trouve qu'ils sont pas ridicules jusqu'au premier but monégasque.
Ils mettent 0-0 à la mi-temps. Hein.
Ils se créent des situations.
Le match,
ils essayent sans arrêt.
Sur un cafouillage.
Ça se débloque sur le cafouillage. Mais à un moment, je pense qu'Elsner, dans cette situation, dans la situation dans laquelle il est, il va devoir faire un choix. Le choix, c'est est-ce que je continue à vouloir être aussi ambitieux dans le jeu? Ce soir, j'ai trouvé que c'était intéressant encore ce qu'il a proposé. Ou est-ce que maintenant, je me rends compte qu'on est dans une situation critique et on essaie d'un petit peu plus, voilà, si on voit qu'on n'arrive pas à marquer, essayer de prendre un point. Je pense que la question va devoir se poser. Ça remet pas en doute ses qualités d'entraîneur, ses qualités de tacticien et ce qu'il nous a pu nous montrer, qui ne s'est pas forcément traduit par des résultats, mais dans le contenu en termes de football.
Mais maintenant,
quand tu es dans la situation d'Amiens, il va devoir se poser un choix. Et je pense que c'est un entraîneur qui est jeune et qui va devoir vraiment prendre une décision qui est très forte. Est-ce que je continue à rester 100%
coach,
comme ça, ou est-ce qu'à un moment faut un peu faire?
Elsner a des belles idées romantiques de jeu offensif, toujours jouer, produire. Quand tu prends 14 buts en 4 matchs et que tu glisses dans les fins fonds du classement, est-ce que tu changes tes idées?
Il y a un joueur qui a un peu d'expérience quand même.
Tu veux, mais à part les 2-3 dernières semaines, j'avais été quand même agréablement surpris par ce que fait Amiens et ce que fait ce coach. Donc là maintenant, j'ai pas tout en tête. Mais je crois qu'il y a pas mal de blessés de partout.
T'as des blessés, t'as Godos qui est suspendu aussi.
Du côté d'Amiens. Donc Amiens est peut-être affaibli à ce moment.
Ce que je veux.
Non, tu veux. Il laisse Jallet sur le banc ce soir.
Oui.
Bon, peut-être que. Alors Jallet, il a plus ses jambes de 20 ans. Mais en termes d'expérience, je pense que ça peut-être stabiliser un peu plus cette défense.
Messieurs, parenthèse, championnat du monde de boxe poids lourd, Arabie Saoudite, Anthony Joshua, Andy Junior, un moment toujours fou à vivre. Présentation des deux combattants, des deux boxeurs, avec Michael Buffer, la voix légendaire de la boxe. Let's get ready to rumble. Morgan Mori.
Salut à tous.
Salut Morgan.
Michael Buffer qui est au centre du ring, toujours impeccable dans son costume, sa petite fille, les deux garçons qui sont montés sur le ring. D'abord Anthony Joshua, puisqu'il est le challenger, dans un peignoir blanc, extrêmement concentré. C'était très simple, l'entrée de l'ancien champion du monde, avec quelques rayons laser bleu, rouge et blanc. Ça rappelait un peu James Bond. Et entrée un peu plus pétaradante pour Andy Ruiz, le nouveau champion du monde, le champion du monde, avec il y a quatre ceintures autour de la taille, avec de la salsa et un peignoir noir doré avec un intérieur fourrure et des images du Christ sur les manches. Les deux garçons qui se font face, les hymnes ont eu lieu, c'est Michael Buffer.
Et la formule de Michael Buffer qui va arriver là, on va les laisser. Allons-y.
Ladies and gentlemen, from the kingdom of Saudi Arabia, let's get ready to rumble!
Oh mon Dieu!
Extraordinaire.
Ouais, c'est extraordinaire. On s'en lâche.
Tu savais que son frère, c'était le commentateur mythique de l'UFC.
L'UFC.
Son cousin, Bruce Buffer. Non, c'est son frère.
C'est son frère. C'est son frère, le frère de Michael, Bruce Buffer. Cet homme-là, Michael Buffer, hein, qui vient pour les grands combats. Bon, il prend un petit chèque au passage, hein, 2-3 000 euros. Quoi,
ouais, plus, tu vois. Quand il va partir, il va falloir penser à faire un hologramme ou quelque chose.
Que... carrément, très belle idée.
Michael C. Williams est pas mal aussi.
Mais Michael Buffer, qui a joué dans Rocky. Hein, mais... Carrément. Hein. Si, il a joué dans Rocky. Certains.
Oui, bah oui,
certains. Voilà ce combat qu'on va vivre en fil rouge, en l'after, bien sûr, avec Morgan Mori. Est-ce que Joshua va récupérer ses 3 ceintures mondiales chez les poids lourds? Où est-ce qu'Andy Ruiz va réaliser, comme le disait coach tout à l'heure, un deuxième miracle, 6 mois après le miracle du Madison Square Garden?
Ah mais là, j'appellerais plus ça un miracle.
Ouais.
Pour moi, le premier combat, c'était un miracle. J'ai les connaissances limitées, mais je trouvais que il avait été un petit peu avec un excès de confiance. Mais là, si ça se passe une deuxième fois, je change
c'est,
bien ma vision.
C'est pas un excès de confiance. En fait, le problème, c'est quand il envoie au tapis au troisième round, il essaye de le finir tout de suite. Et du coup, il maintient plus les distances dans lesquelles il était sûr. Et là, il se fait attraper.
Morgan, rapidement, les mensurations des deux hommes, quand même.
Les mensurations des deux hommes. Andy Ruiz, 1m88, 128 kg, 400 grammes à la pesée. 1m98, 107 kg et 500 grammes pour Anthony Joshua, qui a perdu 5 kilos par rapport à la dernière confrontation.
Ça fait 20 kilos de différence quand même.
Entre les deux hommes, 20 kilos de différence. Mais Andy Ruiz, il n'a pas la boxe de son physique, attention, et les abdos sont cachés dessous, ouais. Mais il a une vitesse de bras et un punch étonnant, ce garçon. On va vous raconter ça. C'est la présentation d'Andy Ruiz en ce moment par Michael Buffer, et dans 3-4 minutes, c'est parti pour ce championnat du monde. 12 reprises de 3 minutes.
Et on suit ce combat avec toi, Morgan, bien sûr. Dans un instant, appelez-nous, supporter niçois. On va évoquer avec vous la victoire du gym 4-1 face au FC Metz. Victoire étincelante des hommes de Vira qui avaient le sourire ce soir grâce à Cyprien Doublé, Ganago et Les Melou. Appelez-nous au 32-16, supporter niçois. On va commencer maintenant, les gars, sur Nice, hein, qui s'est repris après sa défaite en milieu de semaine. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Nice qui, au classement, bon, c'est du bien. Hein. Effectivement, c'est niçois qui n'était pas à la place qu'ils ambitionnaient en début de saison. Nice est désormais 11e, 12e de Ligue 1 avec 23 points. Jonathan, qu'est-ce que tu retiens de la victoire de Nice?
C'est une victoire qui leur fait du bien. Alors, je suis toujours un petit peu sceptique quant à l'équilibre de l'équipe, notamment au milieu de terrain, même si là, ils ont été très bons. Écoute, je pense qu'ils ont joué contre un Metz qui a été en dessous de son niveau et que c'était pas un match d'une très grande qualité, malgré le fait que Nice ait mis 4 buts.
Bon, les gars, on va être honnête là. Ça peut jouer maintenant, le combat de boxe. Ça va aller très vite dans le premier round, donc on va le dire avec Morgan Mori. Première reprise, Morgan, Andy Ruiz Junior, Anthony Joshua.
Andy Ruiz dans son short doré, short blanc pour Anthony Joshua. C'est Andy Ruiz qui a pris le centre du ring pour l'instant dans ce combat. Première reprise, bien sûr, 25 secondes d'écoulée. Anthony Joshua qui est devenu plus humble. C'est lui qui le dit après cette défaite. Il s'est affûté, il s'est affiné. Est-ce qu'il va avoir la tactique pour répondre à Andy Ruiz devant ses 15 000 personnes dans cette arène construite pour l'occasion en Arabie Saoudite? 40 secondes dans cette première reprise. On s'observe pour l'instant. Andy Ruiz, jambe gauche avancée, jambe gauche également avancée pour Anthony Joshua. Joshua qui tourne autour de son adversaire.
Patient,
toujours
bien.
Au centre du ring. Pas de coup marquant pour l'instant dans ce combat. Ce championnat du monde poids lourd, Andy Ruiz qui a 3 ceintures mondiales majeures autour de la taille, WBA, IBF et WBO, plus une ceinture mineure, la ceinture IBO. C'est parti depuis 1 minute et 5 secondes dans ce championnat du monde de boxe poids lourd. Anthony Joshua qui reste pour l'instant à distance, qui reste loin, qui essaye de faire parler son 1m98, d'aller chercher au corps, d'aller chercher au ventre d'Andy Ruiz. Pour l'instant, pas de coup marquant, n'a pas touché durement son adversaire. La moitié de cette première reprise, c'est maintenant Nicolas et toute l'équipe de l'after. Rien de marqué, rien de transcendant pour l'instant. On s'observe entre les deux hommes, 1 minute et 30 secondes dans cette première reprise. Joshua
prudent
face à Andy Ruiz.
C'est normal, c'est le premier round, il fait parler son direct, il reste à distance. Les deux boxeurs, même s'ils sont déjà affrontés, ont besoin de reprendre leur distance respective.
Coach, c'est pour ça qu'en football, on appelle le round d'observation.
Voilà, c'est exactement ça, il est là, coach.
Ce qui est intéressant,
c'est la de coach sur la boxe.
Ce qui est intéressant, c'est de voir Joshua attaquer, essayer de vraiment attaquer le corps de Ruiz, chose qu'il n'a pas assez fait lors du premier combat.
Anthony Joshua, Andy Ruiz, la revanche, Arabie Saoudite, Morgan Mori, première reprise.
Voilà, il entre dans la distance, Anthony Joshua, la droite puis la gauche, on fait travailler avec son bras avant, c'est le bras gauche, Anthony Joshua, bon début de combat, ça y est, il est entré un peu plus rapidement que Ruiz dans ce combat, dans ce championnat du monde poids lourd, la dernière minute de cette première reprise, l'arbitre, monsieur Pablon, est-ce que Anthony Joshua va être capable de gommer ses erreurs d'il y a 6 mois au Madison Square Garden? Est-ce que Andy Ruiz ne s'est pas empâté? Est-ce qu'il n'a pas été happé par cette nouvelle notoriété comme on l'a déjà vu par le passé, comme par exemple Buster Douglas quand il a envoyé Mike Tyson au tapis à Tokyo et ensuite qu'il avait été expédié par Evander Holyfield? Fin de cette première reprise dans 30 secondes. Andy Ruiz toujours au centre du ring. Anthony Joshua qui, lorsque Andy Ruiz avance, essaye de donner de son bras avant, de son bras gauche, en crochet avec le jab. Pour l'instant, ça reste un petit peu timide. Et voilà, Andy Ruiz, ça y est, la première droite forte, elle est pour Anthony Joshua avec le bras arrière. Il a déjà coupé l'arcade d'Andy Ruiz. Ah ouais. Premier point marquant, l'arcade gauche de Andy Ruiz qui a explosé. Ça saigne déjà pas mal le long de la joue gauche du champion mexicain, américano-mexicain. Fin de cette première reprise dans 10 secondes. Voilà, c'est terminé. Et Anthony Joshua, premier coup dur en sa faveur. Il a coupé au-dessus de l'œil gauche Andy Ruiz. Fin de cette première reprise. Première reprise accordée, à mon avis, à Anthony Joshua. Ah,
19. Pour lui, 19.
Premier en droite et premier décisif.
Ouais, effectivement. Ruiz, inédit également. Il n'avait pas saigné Andy Ruiz à Madison. Voilà, mais il avait fini au sol déjà au troisième Joshua dans la troisième reprise avant de terrasser Anthony Joshua. Allez, on revient dans un instant. Nice, la victoire de Nice 4-1 ce soir face à Metz. Laurent nous attend au 32-16. L'after est là jusqu'à minuit. Coach Courbis, Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit, after foot avec un fil rouge. C'est la boxe, championnat du monde, poids lourd. Dans un instant, on parle de la victoire de Nice face à Metz. Laurent, supporter niçois, nous attend au 32-16. Mais d'abord, la fin de la deuxième reprise avec toi, Morgan. Anthony Joshua touché à son tour.
Eh oui, une combinaison. Il a doublé sa gauche, Andy Ruiz, et les deux hommes qui sont symétriques au niveau des coupures à l'œil gauche, à la paupière pour Anthony Joshua. Il a été bon dans l'anglais, le britannique, dans la deuxième reprise. Il semblait dominer les espaces, mais il y a eu 2-3 séquences d'Andy Ruiz qui ont été extrêmement précises. C'est le début de la troisième reprise. Les deux hommes ont été touchés, ont été coupés dans ce championnat du monde poids lourd. Troisième reprise.
C'est incroyable.
Encore 2 minutes et 40 secondes dans cette troisième reprise. Andy Ruiz semble avoir un peu compris le jeu d'Anthony Joshua. Joshua contrôlait les distances, les timings, mais Ruiz est en train de s'avancer, de gagner les 30 cm peut-être.
Il y a match, les gars, encore.
En début de combat.
Il y a encore match ou pas?
Il y a match, mais ce qui est surtout surprenant, c'est que Joshua se fasse couper sur un crochet gauche de Ruiz. Et c'est le coup qu'il était censé travailler, tu vois, c'est de protéger.
Je rappelle pour les gens qui nous écoutent que tu aimes beaucoup la boxe également. Tu présentes un podcast avec Thomas Desson sur
Alex Rabinet et Brahim Assoum.
Et Brahim Assoum, effectivement, voilà, pour expliquer que tu as une petite légitimité quand même à parler de boxe, hein, pour ceux qui penseraient le contraire. Merci Morgane. On vient dans un instant avec toi, bien sûr. Nice mène a battu 4-1 le FC Metz, doublé de Cyprien, Ganago et Pierre Lès. Mélou, j'accueille Laurent au 32-16, supporter du gym. Bonsoir et bienvenue, Laurent.
Salut Laurent.
C'est Coach Courbis, Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak t'écoutent.
Comment allez-vous?
Bien, et toi?
Bah écoute...
T'aimes la boxe aussi un peu ou pas du tout?
De loin, je suivais ça il y a quelques temps.
Mais t'aimais bien Cyril Roll, mon pote, non?
Pardon?
T'aimais bien Cyril Roll?
Ouais, bah bien
bon,
sûr.
Bon bah t'aimais la baston alors, ça va.
Ouais, allez, vas-y Laurent, et attends, tu laisses parler Laurent. Vas-y.
Bah écoute, moi je voudrais déjà en préambule préciser quelque chose par rapport au débat sur le GC Nice. Parce que depuis quelques temps, j'ai entendu 2-3 chroniqueurs parler d'un budget de Nice qui serait aux alentours de 100 millions d'euros. Et je précise que le budget de Nice cette année est de 52 millions d'euros, ce qui le place en 10e position en Ligue 1, parce que c'est un budget qui a été acté avant l'arrivée de Radcliffe. Donc ça, c'est important parce que on est certainement beaucoup plus sévère quand on parle d'un club à 100 millions d'euros qu'un club qui est à 50. Donc là, alors ça ira évidemment.
Laurent, juste deux secondes, t'inclus Ounas et Dolberg?
Oui. En fait, Ounas et Dolberg, c'est la vente de Série et de Saint-Maximin qui avait été reporté.
Ouais, et donc on est en fait, t'avais eu un dépaiement échelonné, en fait.
Absolument. Donc en fait, c'est pour l'instant, on est encore sous les effets de l'ancienne direction qui d'ailleurs a tout fait pour pourrir un peu. Ils y sont arrivés en partie pour pourrir un peu ce changement de propriétaire. Donc il n'y a pas de crise à Nice. Il y a simplement des. On est tellement aussi habitués. Moi, je vais prendre le côté un petit peu plus disons positif par rapport à pas mal de supporters niçois qui sont souvent très impatients. On est très habitués depuis pas mal d'années à voir Nice surperformer avec selon le terme un petit peu à la mode. Tu vois, avec des classements plusieurs fois quatrième, une fois troisième. Bref, dans la première partie de tableau, et alors que c'est un budget moyen de Ligue 1, Nice, c'est toujours le dixième budget depuis pas mal de temps. Attends, je termine juste. Mais je ne peux pas te dire que le jeu est bon, tu vois, que ça se passe bien en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Mais de là à parler de crise, ou etc.
Non, t'as raison.
Tu vois, voilà.
Il y a deux différences par rapport au Nice de Lucien Favre ou de Claude Puel. La première, c'était qu'à l'époque, t'avais. Et je l'avais dit plusieurs fois, à mon sens, la cellule de recrutement la plus performante en termes de rapport qualité-prix. Mm-hmm. Aller chercher des Darius Vitanić, d'aller chercher des Jean-Michel Seri pour une poignée de cacahuètes au Portugal. Ils vous avez fait des coups quand même qui
Ricardo
étaient
Pereira.
Assez. Ricardo Pereira, d'Albert, des coups qui étaient quand même assez exceptionnels.
Alors là,
tu les fais plus. Juste, attends, Laurent, là tu les fais plus vraiment, je trouve. Ça fait un moment où t'as pas fait un coup, tu dis ah ouais, ça a quand même de la gueule. Et juste, attends, pour terminer, le deuxième point, c'est je pense quand même que la différence majeur, c'est que Patrick Vieira, aussi sympathique soit-il, n'est pas un entraîneur du calibre de Lucien Favre et de Claude Puel.
Mais je suis d'accord. Parce que en fait, je pense que l'un des acteurs principaux de cette cellule de recrutement, c'était Serge Rocordier, qui était parti à Monaco pendant deux ans.
C'est vrai.
Et là, il est revenu. Donc, il est revenu il y a peu de temps. Donc là, on a de nouveau la même cellule de recrutement qu'il y avait lors des beaux coups dont tu parles. En ce qui concerne Patrick Vieira, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai. Si tu veux, ce qui m'a un petit peu là où j'étais tempéré, c'est que l'année précédente pour sa première année dans un grand championnat, enfin disons dans un championnat européen, il fait quand même septième avec très peu d'éléments offensifs, donc il fait une année on va dire bonne. Et cette année, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a beaucoup de problèmes et je vais en citer un qui me semble primordial. C'est les deux mises à l'écart de Tamézé et de Walter. Mm-hmm. Parce qu'on a quand même deux demi-défensifs qui nous font cruellement défaut, ce qui fait que
on en a parlé plein de fois avec Ludo de ça.
Attends, et Tamézé, c'est quand même un joueur qui a montré son état d'esprit. Pour une fois qu'on a un jeune joueur qui refuse de partir à l'étranger, parce qu'il y a deux clubs, genre je crois CSKA Moscou, où il aurait certainement triplé son salaire. Donc pour une fois qu'on a un jeune joueur resté parce qu'il voulait bosser avec Vieira, c'est pour ça qu'il est resté, c'était le même poste. Et du coup, Vieira, je trouvais un peu sévère. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, de le mettre à l'écart pour un match ou deux, ça peut se comprendre pour une erreur de comportement.
T'as raison.
Mais là, il est à l'écart depuis un mois ou deux. Donc, je pense que ça a dû faire un peu ricocher dans le vestiaire. Je crois qu'il y a des problèmes, visiblement, entre les joueurs et Vieira. Et puis, il y a certains choix.
Et surtout, Laurent,
qui sont discutables.
Avec Ludo, on le dit depuis des semaines. Pour moi, ce qui me pose problème dans les mises en place tactiques de Vieira, c'est la cohérence de son milieu de terrain. C'est pas forcément les hommes, mais c'est plus la disposition avec Cyprien, qui est lui devant la défense. Et le fait est que t'alignes jamais un vrai milieu défensif de métier. Et t'en as. T'as parlé de Tamézé. Oui, très bon. T'as parlé de Walter. Oui, très bon. Et je comprends pas pourquoi il est pas capable de ravaler un petit peu la bisbille qu'il a avec ses joueurs pour les mettre parce qu'il leur ferait vraiment du bien.
Absolument. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi.
Vas-y Ludo. Vous avez pas tort sur le fait que Patrick Vieira, il est pas très souple au niveau de ses idées. T'as l'impression qu'il a la dent dure contre certains. Alors après, s'il y a des problèmes dans le groupe, comme Laurent dit, en tout cas avec lui, le groupe est scindé en deux parce que moi j'ai vu quelques joueurs sur les buts venir lui taper la main. Tu vois, le groupe est peut-être aussi coupé en deux, je sais pas.
Pour revenir à Vieira,
il y a deux trucs qui me chagrinent. C'est, alors là, il pouvait peut-être pas faire autrement ce soir, mais le maintien de Dante, qui clairement ces derniers matchs est un vrai point faible.
Qu'est-ce
pour
qu'il
la
a comme autre choix finalement?
Et bien quand Erel Sarr,
Donc t'es pas sur une défense à 5 du coup.
J'aime bien avec là comme ça a été ce soir puisque Lesmelou et Cyprien reviennent dans une forme qui d'ailleurs transfigure le visage de l'OGC Nice. Et moi j'aimais bien la doublette sur le côté Atal Ounas. Tu vois, j'aime bien que les deux puissent fonctionner ensemble. Ounas qui rentre sur son pied gauche pour s'ouvrir le jeu et Atal qui le dédouble. Et je préfère moi Atal quand il part de derrière que quand il est au milieu de terrain. Donc tu vois cette doublette là, il faut absolument la garder parce que c'est un point fort. Au milieu, je trouve qu'à deux, il fonctionne bien. Et peut-être avec le petit Lusamba là qui alors peut-être pas sur le dernier match, mais celui d'avant à domicile avait été très très bon. Voilà, il y a
ben
des
oui,
choses.
Pourquoi il le met pour... ça aussi, c'était bizarre, il le met pas ce
ben,
soir.
C'est ça, ouais.
Alors
c'est
que
bizarre.
Contre Angers, il a été l'homme du match. Si je peux juste dire quelque chose sur Dante, faut pas être trop sévère parce que Dante a été blessé 2 mois et à 35 ans, tu reviens pas comme à 22 ou 23. Donc il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps. Et si tu remarques les défaites de Nice octobre-novembre quand ils ont enchaîné leurs 6 ou 7 défaites là de suite, il y avait 3 joueurs majeurs absents qui étaient également absents à Saint-Etienne. C'est-à-dire Ounas, Erel et la charnière centrale, donc Erel et Dante. Mm-hmm. Je pense que Dante peut encore rendre des services, faut juste lui peut-être. Alors, je suis pas sûr, mais lui laisser un petit peu de temps parce qu'il a été quand même 2 mois à août, septembre, octobre. Bon, alors peut-être que c'est dû à ça aussi.
À 5 peut-être, Laurent, mais à 4, moi je crois
que c'est vrai qu'il est quand même
moi je crois que Nice doit revenir à 4.
Et ils ont recruté un arrière gauche. Alléluia, voilà. Alléluia. Depuis, on a recruté un arrière gauche qui vient de la Lazio de Rome.
Ouais, on verra parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. On verra dans quel état. Coach, vas-y, coach.
Dans toute la discussion sur Nice, là, on pourrait dire 2 mots sur Atal, sur l'importance que peut avoir ce joueur, quelle que soit la façon de l'utiliser. Et là, il y a des blessures de partout, hein. Ouais. Mais ce soir, malheureusement, j'ai peur qu'il se soit blessé bêtement, j'espère que ce ne soit pas gravement.
Sur une virgule.
Vous croyez que c'est des croisés ou pas?
Non, je ne pense pas. On verra. Merci Laurent d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Nice. Calendrier avant la trêve hivernale, déplacement à Brest le week-end prochain et puis réception de Toulouse. Donc voilà, calendrier plutôt favorable pour le gym pour revenir dans le top 10 de la Ligue 1. Morgan Maury, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce qu'on a vécu au Madison Square Garden il y a 6 mois? Andy Ruiz fait très mal encore une fois Anthony Joshua.
Et peut-être Nicolas, parce qu'on avait l'impression qu'Anthony Joshua gérait avec son bras avant, son grand bras gauche, il a l'avantage de l'allonge sur son petit adversaire, sur le petit champion du monde Andy Ruiz. Mais les 15-20 dernières secondes de la quatrième reprise, il est entré dans la bagarre tête contre tête. Il était meilleur qu'Anthony Joshua, il a fait mal à son adversaire au Britannique. Et là on est dans la cinquième reprise, 1 minute et 17 secondes encore avant la fin de cette reprise, et Andy Ruiz Junior qui est plus entreprenant dans ce combat en Arabie Saoudite. Joshua a dominé le début de ce match, mais Andy Ruiz qui est de plus en plus entreprenant. Est-ce qu'il va être capable de faire parler sa vitesse de bras et son punch aussi, parce qu'il peut faire extrêmement mal, pourquoi pas. Il saigne toujours au niveau de l'œil gauche, dans le coin de l'œil gauche, le sang lui coule le long de la joue et ça ne le gêne pas pour voir arriver les coups d'Anthony Joshua. Et Joshua qui est sur le reculoir pour l'instant dans cette fin de cinquième reprise, encore 45 secondes. Andy Ruiz Junior dans son short doré, le short blanc d'Anthony Joshua, déjà du sang sur les deux shorts. Cinquième reprise, encore 40 secondes, et voilà Anthony Joshua enfin avec son bras arrière. Il l'avait montré une fois à la quatrième reprise qu'il est capable de faire mal, il l'a montré une fois encore, et là le bras avant d'Anthony Joshua et qui touche le menton de Andy Ruiz, et les deux hommes qui s'attrapent, et l'arbitre monsieur Pablon qui va les séparer. Encore 20 secondes Nicolas dans cette cinquième reprise entre Andy Ruiz Junior, le champion du monde poids lourd, détenteur de 3 ceintures majeures, et Anthony Joshua qui veut essayer de récupérer.
Il est bien là Joshua,
c'est
là.
Ses 3
bien,
ceintures là. Anthony Joshua, regard extrêmement lucide, simple, qui lucide en tout cas sur ses déplacements. Il essaye de ne pas se faire cadrer, là il est dans un endroit difficile dans l'angle du ring, et il essaye de s'échapper par des petits pas chassés pour vivre une fin de round tranquille. C'est la fin de cette cinquième reprise. Les deux hommes qui rejoignent leur coin.
C'est la cinquième, c'est ça?
C'est la fin de cinquième reprise.
Donc, on est avantage niveau, qui pour l'instant?
On en est où au niveau des points, là, Morgan?
Tu veux mon comptage?
Moi, je mettrais 3-2.
Oui, 3-2, un légère avantage. 3-2 Joshua. Joshua qui a mieux démarré sur les deux premières reprises. Il était au-dessus, Joshua.
3-2 Joshua. 3-2 Joshua, voilà. On rappelle que ça va ou bien les 12
rounds. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les premiers rounds, ce que Joshua a très bien fait par rapport au premier combat, c'est de vraiment servir de son direct pour maintenir Ruiz à distance. Mais ce qui est terrible, c'est que Ruiz, dès qu'il arrive à casser la distance, et à salir un petit peu, à faire ce qu'on appelle du dirty boxing, il est redoutable. Parce que Joshua a gardé le même problème qu'il avait au premier combat, c'est que, et c'est un problème qu'il a eu toute sa carrière quand il affronte des boxeurs plus petits que lui, c'est qu'on dirait qu'il a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il se baisse? Est-ce qu'il se tient très droit? Et t'as l'impression qu'il va se tenir très droit, ouais, et sa tête devient, ouais, une cible mouvante.
Est-ce, ouais, que le coup qu'il lui met là, le round précédent, là, derrière l'oreille,
ah bah ça sonne.
Que Ruiz met à Joshua
derrière l'oreille, voilà, ça, c'est horrible. Ouais. En fait, c'est pourquoi c'est horrible? Parce que tu te prends sur le menton, les lumières elles s'éteignent, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Tu te prends le coup derrière l'oreille. T'es un petit peu sur des jambes en gélatine, quoi.
L'after revient dans un instant, mais sur une ensemble jusqu'à minuit. On va évoquer notamment les autres matchs de la soirée. Rennes, troisième victoire consécutive en Ligue 1. Rennes qui se rapproche du podium. L'épopée rennaise est relancée, Ludo. Appelez-nous 32-16, supporters rennais, bien sûr, victoire face au SCO d'Angers, en revanche qui glisse, troisième défaite consécutive. Appelez-nous également supporters angevin. On parlera de Toulouse, de Combouré également. A tout de suite pour l'after.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak et coach Courbis. Je vous rappelle qu'on vit en fil rouge le championnat du monde de boxe poids lourd. Andy Ruiz Junior face à Anthony Joshua. Morgan Maury, avant qu'on parle de la victoire rennaise face à Angers, on en est où?
On est à la moitié de ce combat. Anthony Joshua qui fait des choses très simples: je touche et je m'en vais, mais attention au crochet de Ruiz qui a touché en début de sixième reprise, sous les yeux du rappeur Usher, sous les yeux de Canelo Alvarez, champion en quatre catégories différentes, des super moyens, notamment mexicain, qui est venu soutenir Andy Ruiz Junior. Ça part dans 20 secondes pour la septième reprise. Avantage pour l'instant selon nos comptages pour Anthony Joshua.
On rappelle que les deux hommes ont été touchés aux arcades respectives. Et bien sûr, triplé de Messi, Ludo, effectivement, tu me signales ça. Le Barça qui mène 5 buts à 2 face à Mallorca, alors qu'il reste 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Griezmann a marqué également ce soir avec le FC Barcelone. Le Barça qui repasse devant le Real Madrid, qui s'est également imposé, on en parle tout à l'heure, avec Fred Hermel et nos trois autres drôles de dames. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers ce soir. Troisième victoire consécutive après avoir battu Saint-Etienne 2-1, avoir gagné à Metz en milieu de semaine 1-0. Rennes s'impose 2-1 face au SCO sur un doublé de Mbaye Niang. Coach, tu connais bien Mbaye Niang, tu l'es à Montpellier, le jeune Mbaye qui a grandi depuis.
Ouais, complètement.
Comment tu analyses cette série rennaise? C'est des victoires petites mais conséquentes, en tout cas pour la saison rennaise.
C'est une saison qui a quand même été particulière, dans le sens que malheureusement dès maintenant l'Europa League est terminée. Il y a eu pas mal de changements entre les départs et les arrivées, et des joueurs difficiles à remplacer. Un recrutement qui n'était pas terminé quand la saison a commencé. Une obligation pour Julien Stéphane de mettre en place un 3-5-2 ou un 5-3-2 qui n'était pas les habitudes de la oui, saison d'avant. Des départs de joueurs comme Sarr, c'est pas facile à remplacer. Et là, maintenant, tout rentre un petit peu dans l'ordre, à l'image de Rafinha, qui est devenu de plus en plus intéressant depuis que Julien Stéphane a remis uniquement quatre défenseurs. L'année dernière, avec cette organisation à quatre défenseurs, elle était équilibrée avec Ben Sebaini, qui était un arrière central décalé sur le côté gauche, comme pouvait l'être Thuram en 98 dans notre équipe de France. Et ça faisait une équipe quand même très, très bien équilibré. Là, il y a quand même un joueur qui est devenu un très bon joueur et qui va encore progresser, c'est Kamavinga, qui est pour moi comme une recrue et un renfort. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de ce niveau-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour le stade rennais. Et n'oublions pas ce match en retard, qui est pas facile contre Nîmes, mais qui est pas impossible non plus. Et là, on peut voir aussi un Rennes trouble fête, capable de se battre pour les 5 premières places, et comme je le dis, pas obligatoirement pour la 5e.
C'est vrai les gars, offensivement ça commence à être vraiment intéressant. Si Rafinha commence à tourner comme il le fait, 3 buts, 2 passes décisives ce soir face à Angers, on a Del Castillo qui bosse bien.
Mais c'est magnifique, je vais te couper. Cet après-midi, dans un match même assez important,
doublé.
Moshe Gladbach contre le Bayern, il a marqué un pénalty, il a marqué un but de la tête, il a marqué les 2 buts de ce match.
Il a fait la victoire dans le choc en Allemagne, on en parlait tout à l'heure avec Paulo Breitner. Adrien Hunou, on en parle peu, c'est 17 buts en 2019, très précieux, très efficace. Mbaye Niang marque également de plus en plus, 7 buts je crois cette saison pour lui. Rafinha commence à faire les différences.
Et il y a des choix forts surtout.
Oui.
Regarde par exemple Clément Grenier qui est écarté,
oui.
Qui joue quasiment plus.
Niagnon
aussi. Il a fait des choix. Je pense qu'il s'est retrouvé un petit peu dos au mur à un moment, en se disant voilà, la saison semble un petit peu mal embarquée. Écoute, là pour l'instant ça marche. C'est une équipe qui a de la qualité. On sent un petit peu depuis quelques matchs qu'il y a une vraie personnalité qui se dégage de cette équipe. J'aime bien l'organisation. J'aime bien effectivement le fait de mettre Rafinha comme ça sur le côté. Je le trouve très efficace. J'aime bien le positionnement d'Ounou quasiment deuxième attaquant avec Mbaye Niang. Donc oui, c'est une équipe qui a de l'idée, qui a de la qualité. Après, est-ce que je les mets au même niveau qu'un Montpellier ou qu'un Saint-Etienne? J'ai quelques doutes. Je pense qu'ils sont quand même un petit cran en dessous parmi ces outsiders pour le podium.
T'es d'accord les deux?
Oui. En tout cas, il fallait se relever de l'élimination en Europa League et de la série de défaites. Julien Stéphan est un jeune entraîneur quand même, mine de rien.
Oui.
Et il fallait trouver les solutions. Tout le monde le voyait déjà mort, ou presque. Donc félicitations à lui déjà pour avoir trouvé
fait
des choix forts comme Jonathan l'a dit, le fait de peut-être accompagner Niang aussi qui souvent je le trouvais trop esselé en ce début de saison, le fait de lui associer Ounou lui fait le plus grand bien. Rafinha qui joue dans un ce soir ça a été un match
il s'est passé si tu me permets la même chose du côté de Strasbourg quand on a joué une partie de la saison avec Ajork tout seul devant tu avais l'impression qu'on pourrait jouer 6 mois sans marquer un but. Et pareil pour Rennes. Là, maintenant, avec Ounou, qui est allé épauler
Niang,
Motiba, qui est allé épauler à York, quand on voit jouer Strasbourg, on a l'impression qu'il peut marquer à tout moment.
D'autant plus que ce sont des joueurs qui sont à l'aise dans le rôle de pivot. C'est-à-dire que Niang, sur le premier but, c'est lui qui vient à la tête pour dévier pour Rafinha et qui est à la finition. Donc, ce sont des joueurs qui... catalyse un peu la tension des défenseurs centraux. Et un joueur comme Ounou qui est dans un registre différent, lui, il est dans la malice. Tu vois qu'il est, c'est quelqu'un qui arrive à faire les bons déplacements et qui se sert justement de l'impact de Niang pour pouvoir tourner autour de lui. Et du coup, je trouve, comme le dit
c'est très
Roland,
complémentaire.
À deux devant, du coup, ça marche mieux. Et Rafinha, c'était un match fait pour lui. C'est un garçon, on sent qu'il a des jambes, qui a des capacités non seulement de dribble
et de
percussion. Rennes est de nouveau dans le coup, mais Rennes nous a habitués aussi à être cyclique.
Il y a un petit détail que tu as pu connaître dans les vestiaires que tu as occupé, c'est qu'il y a 4 ou 5 matchs de ça, il y a un pénalty pour Rennes, et donc c'est pas Rafinha qui doit le tirer, et les joueurs, notamment Niang, lui font cadeau de ce pénalty. Oui. Et bizarrement, il a marqué déjà. Et ça a été un déclic parce que depuis ce penalty, il est redevenu un petit peu celui qu'on a connu la saison dernière et qui était très brillant.
Attention, Guillaume, supporter René au 32-16. Attends, Guillaume, patiente. Salut, bienvenue dans l'after, Guillaume. Salut, Guillaume.
Salut, Guillaume.
Oui, bonjour tout le monde.
Guillaume, attends deux secondes, parce qu'il se passe beaucoup de choses là en Arabie Saoudite. Le combat poids lourd, championnat du monde. Joshua Ruiz, Morgan Mori.
Andy Ruiz qui est en train de faire sortir de son plan Anthony Joshua, de la bagarre pure et dure, encore à corps, tête contre tête. Et Andy Ruiz, c'est le meilleur dans ce domaine-là face aux Britanniques. Et pourquoi pas renverser la situation. Joshua domine, mais Andy Ruiz, dans ces situations de corps à corps, dans ces moments où c'est très chaud, sa vitesse de bras fait des merveilles. Et il a assaisonné sur un enchaînement gauche-droite, encore une fois. Il touche avec la gauche Anthony Joshua. Andy Ruiz qui arrive à toucher l'ancien champion du monde, le britannique. Il termine fort cette 8e reprise. L'américano-mexicain, le champion du monde, l'homme qui a les 3 ceintures. Et Joshua qui le chambre lorsque le gong envoie les deux hommes dans leur coin. Andy Ruiz a peut-être lancé l'opération reconquête dans cette 8e reprise. Il est en train peut-être de faire péter les plombs à Anthony Joshua.
Ouais, enfin, il y a quand même 5 rounds à 3 pour Joshua, je pense. Ouais. 5-3, voire ça, ou même peut-être 6-2. Il faut le mettre KO. Il est largement en avance au point.
Non, mais comme l'impression qu'il apprend pas de ses erreurs. Pourquoi il reste au corps à corps?
Parce qu'en fait, parce que Ruiz a sali le combat. Ruiz, à chaque fois que Joshua l'accroche, il lui met un petit coup derrière. Et là, ça lui a fait un petit peu disjoncter. Et 2-3 fois, il est venu avec l'idée de lui arracher la tête. Et là, il a vu que c'était dangereux. Donc je pense que ses entraîneurs dans le coin vont lui dire, c'est tu t'accroches. Quand l'arbitre te dit de séparer, t'essaies de mettre quand même un petit coup en douce, t'essaies de lire le combat.
Voilà.
Un peu comme toi, tu vas essayer de faire quoi. Tu vas essayer
non,
de
moi, j'ai pas, besoin, j'ai pas besoin.
Voilà, c'est reparti pour la 9e reprise, c'est ça. 9e reprise entre Joshua et Ruiz Morgan.
C'est quoi ton pointage, Morgan?
Pour l'instant, alors j'ai 3 reprises. 3 reprises pour Anthony, pour Andy Ruiz, 5-3. Pardon. 5-3. Et le reste pour Anthony.
Ouais, ah, on a le même.
5-3
hein.
En faveur d'Anthony Joshua. Allez. Contre Andy Ruiz. Il reste 4 reprises dans ce championnat du monde.
Guillaume avec nous, supporter rennais. Guillaume, 3e victoire consécutive, celle de rennais. Du jeu également. Des joueurs qui sont enfin en train d'éclore à l'image de Rafinha. Dans quel état d'esprit tu es, toi, Guillaume, après 16 journées pour Rennes, hein, qui a un match en retard et qui est déjà revenu dans la course à, eh bien, à l'Europe?
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut, rebonsoir.
Salut, Guillaume.
Eh bien, je suis dans une. Je suis dans une position, je dirais merci au public rennais. Parce que on a connu pendant 25, 30 ans des fêtes, des plein de choses compliquées. Et sur un an ou deux, on a connu des victoires, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, et jamais le public a lâché le Stade Rennais. Et ce que je pense que la force depuis 2-3 ans du Stade Rennais, c'est que je pense que c'est difficile. Les gens sont derrière Stéphane. Ils pensent que tout peut arriver. Et avec des effets de mode ou pas, tu peux passer de la 5e, 6e place. Et je pense que, j'ai envie de dire ce soir merci au Stade Rennais, au public rennais, parce que je pense que c'est ce qui fait depuis 3-4 ans l'ADN du club. Voilà. Indépendamment des joueurs qui jouent à un niveau correct ou pas, on sent un truc. Voilà.
Un truc s'est passé clairement, Guillaume, la saison dernière avec l'aventure européenne, la 8e de finale du jeu, et puis cette victoire en finale de Coupe de France. Tout vient de là, quoi. Rien n'attendait depuis très longtemps de plus être un peu l'élève maudit de la Ligue 1, Ludo. Et ça a été déclencheur. On verra cette saison hein, si ça se confirme, ça se prolonge.
C'est tout le problème de ce club-là, c'est qu'il a souvent été cyclique. Aujourd'hui, bien sûr. Notre auditeur, je ne sais plus,
Guillaume,
nous le rappelait, Julien Stéphane bénéficie d'un crédit auprès des supporters rennais, et à juste titre, parce que c'est vrai que ce qu'il a fait à peine arrivé, ramener comme ça un trophée, alors que Rennes court derrière depuis tellement d'années maintenant, voilà, je trouve qu'il est tout à fait normal que ce jeune entraîneur ait des hauts et des bas, il apprend sa carrière, il apprend son métier, et
moi, pas l'enterrer et le porter au nu pour autant non plus. Voilà,
non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de con, on ne l'a jamais porté au nu, mais ce qu'il a fait, il a quand même récupéré un club qui était en grande difficulté avec Sabri Lamouchi, et il en a fait quelque chose de très cohérent avec un titre au bout. Donc ça, c'est à féliciter.
Une qualification européenne.
Après, le passé, c'est le passé. Et c'est vrai que ces derniers temps, il devait être jugé aussi sur le fait qu'il était moins inspiré. Heureusement pour lui, c'est quelqu'un qui est assez intelligent pour se renouveler. Il se renouvelle, il fait des choix forts. Et il est justement récompensé.
Coach, t'es d'accord, ce Julien Stéphane. C'est vrai qu'il a été extrêmement loué son dernier, peut-être à l'excès parfois, et à l'excès inversement critiqué en début de saison.
Oui, mais bon,
faut être nuancé sur
c'est un métier que
oui, j'ai c'est vrai.
Donc on attend un
t'as
peu.
Connu ça, ouais.
Et c'est vrai que c'est quand même un cas particulier, parce que tout en étant jeune, c'est un jeune expérimenté. Ça fait. Malgré son jeune âge, ça fait une dizaine d'années et même une douzaine d'années qu'il est entraîneur. Alors entraîneur de l'équipe réserve de Rennes, ok, d'accord, mais c'est quand même entraîneur. Donc le métier, tu le connais. Le vestiaire, eh ben tu sais comment le gérer. Et en plus, eh ben lui aussi, il a le droit de progresser. On progresse à tout âge. Ces derniers temps, paraît-il. Il était en danger. Je me disais j'espère. Que c'est des conneries qu'on entend, parce que c'est difficile de faire mieux que ce qu'a pu faire ce garçon-là depuis une douzaine de mois.
Oui, il a à peine 39 ans, Julien Stéphane, très jeune entraîneur. Merci Guillaume d'avoir appelé au 32-16, excellente soirée à toi. Nous reviendrons dans un instant, mais sur gros programme encore. On va débriefer la victoire du PSG à Montpellier 3-1 en fin d'après-midi. Débrief du match de Neymar, de Mbappé, notamment les choix de Tourelle. Beaucoup de réactions aujourd'hui sur les réseaux et sur l'hashtag RMC Live. Appelez-nous supporters parisiens, appelez-nous supporters montpelliérains et bien sûr, les drôles de dames avec la défaite tout à l'heure de la Juve face à la Lazio Rome. L'Inter est donc toujours en tête de Serie A. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.